Session d'introduction à la théologie par le Père Philippe à Rimont, le 5 octobre 1992, troisième cours.
Il y a encore quelques questions. Pourquoi la parole humaine ? Mais ça, on l'avait vu la dernière fois. La théologie reste-t-elle scientifique ou est-elle plus sagesse? Quand saint Thomas en arrive à étudier les actes humains ou la vie de Jésus? Ça, c'est une question très délicate. La théologie est toujours sagesse et science. Je crois, puisqu'elle part de Dieu. Et le propre de la sagesse, c'est de partir de Dieu et de regarder Dieu. Du fait même qu'elle contemple Dieu, elle est sagesse. Mais c'est sûr que l'aspect sagesse sera beaucoup plus développé en théologie mystique qu'en théologie scientifique. Saint Thomas ne le traite pas. Mais je crois que si on comprend que la théologie scientifique est l'axe et que la théologie scientifique doit se développer ensuite en théologie mystique, alors on comprend que la théologie mystique est forcément beaucoup plus contemplative. Alors, le jugement de sagesse, il apparaît tout le temps. Quand on dit Dieu est absolument simple, c'est un jugement éminemment de sagesse. Et quand on traite de l'acte humain, on regarde l'imago Dei dans la lumière de Dieu. On regarde l'homme comme image de Dieu dans la lumière de Dieu. Quand on regarde la vie de Jésus, on regarde évidemment là aussi, d'un point de vue d'un jugement de sagesse, dans la lumière du Verbe, on regarde la vie de Jésus. Alors, il reste encore cette petite question. Les écrits johanniques ont-ils une place particulière comme source de la théologie? Je dirais une place particulière avant tout dans la théologie mystique. Scientifiques ont une place particulière aussi parce que le Verbe est quand même propre à la grande théologie de Saint Jean, à la révélation johannique. Vous avez remarqué les oraisons liturgiques sur la fête de Saint Jean montrent bien que toute sa révélation vient du Verbe. Conduit au Verbe. Alors on peut dire que en théologie scientifique, saint Thomas situe le mystère du Verbe antérieur au mystère du Fils. C'est assez significatif, ça. Et par le fait même, le mystère du Père est vu dans la lumière du Verbe et du Fils en second. Quant à l'Esprit Saint, il est vu comme mission également. Dans le mystère de Marie, c'est sûr. Un rôle ultime. C'est pas une nouvelle théologie, c'est quelque chose d'ultime. Qui alors, parce que c'est ultime, dans l'ordre de la connaissance de Dieu, de la pénétration sur les mystères de Dieu, c'est normal que ce soit premier dans l'ordre de la théologie mystique. Alors, je continue avec vous. Et quelques questions qui dépendent de traiter dans cette petite session. Alors, on se pose la question, comment s'élabore la théologie ? Place de l'intelligence et de la foi. Comment s'élabore la théologie ? C'est très difficile. Je crois, historiquement, la théologie s'est élaborée en fonction de confusion par rapport à la parole de Dieu. Les hérésies font avancer la théologie. Ça, c'est sûr. La position de Monseigneur Lefebvre devrait faire avancer la théologie. Pour expliquer comment on a pu en arriver à cette position-là. Quelle était la confusion ? Là, c'est un regard théologique sur l'Église. Et un regard de la place de la liturgie dans l'Église. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des erreurs, et des grandes erreurs aujourd'hui, regarde le mystère de l'Église avant tout. C'est extrêmement net. Des erreurs au point de vue moral aussi, des confusions. Ça doit être une occasion pour le théologien de préciser et d'aller plus loin. Opportet et recessé. C'est cette opportet et recessé montre bien que de fait, dans toute la vie de l'Église, c'est constamment comme cela que la théologie s'est développée. Il y a eu une élaboration théologique qui s'est faite. Il y a aussi un progrès, alors je dirais plus pour la théologie contemporaine, pour la théologie mystique, un progrès qui provient tout simplement de notre attention plus aimante par rapport au mystère, notre contemplation. Mais je crois qu'on ne peut pas donner un ordre à l'élaboration de la théologie. C'est assez normal, puisque science subalternée. Mais on peut, quand le développement est fait, ordonner. Il y a un ordre dans la théologie. C'est une sagesse. Et le propre du sage est d'ordonner. Et l'ordre que prend saint Thomas est un ordre que je crois très difficile à modifier. Essayez de le faire. Pas les premières années. Ce serait beaucoup trop de fantasia. Et au bout de 2 ou 3 ans de théologie, réfléchissez sur l'ordre de saint Thomas au point de vue théologie scientifique. Et regardez si on peut changer. Je vous ai déjà dit qu'il y avait, par rapport au traité, par rapport à l'ensemble de la Somme, des réactions assez violentes qui ont existé juste avant la dernière guerre. réflexion venait du professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris. Il le disait ouvertement. L'ordre Saint-Thomas n'est pas un ordre théologique, parce qu'un ordre théologique doit être un ordre chrétien. Et donc Saint-Thomas devrait commencer par le traité du Christ. Traité du mystère de Dieu. Ce n'est pas théologique, de théologie chrétienne. Traité de la création, ce n'est pas de théologie chrétienne. Tout cela, l'intelligence humaine peut le dire, donc il faut le laisser de côté. Alors voyez, des réactions comme celle-là, parce que celle-là, je l'ai vue. Hein. J'ai même vu le cours qui avait été donné aux étudiants. C'est confusion entre théologie mystique et théologie scientifique. Saint Thomas dit explicitement qu'il veut faire une théologie scientifique. Donc, ne l'attaquons pas. S'il n'a pas fait un ordre de théologie mystique, au point de vue un ordre de théologie scientifique, mais il faut normalement traiter en premier lieu ce qui demande d'être traité en premier lieu et ce qui pour nous est le plus intelligible. Le vieil Aristote disait ça et je peux l'appliquer en théologie. Qu'est-ce qui est le plus intelligible pour moi dans la révélation ? C'est Dieu. Hein ? Le monothéisme a été révélé pendant 1000 ans, 2000 ans. Et donc, c'est ça qu'on doit regarder en premier lieu, à travers toute l'Écriture. Ensuite, c'est le traité de la très sainte Trinité. Puis, la création. Puis, dans la création, ce qui intéresse directement, ce qui nous intéresse directement, c'est l'imago Dei. Alors, le double aspect, l'aspect de l'imago Dei, regardez d'une façon générale et d'une façon plus particulière. Et puis, en dernier lieu, le traité du Christ. Puisque je ne peux parler vraiment du mystère de Jésus que si je sais autant que je le peux dans une théologie scientifique. Le commodo non sit de Dieu et le commodo de la créature humaine et de la grâce. Alors je comprends très bien cet ordre. Et après le traité du Christ, le traité des sacrements. Qui achève tout, c'est le traité de l'Église. Tandis qu'en théologie mystique, c'est le mystère de Jésus qui nous révèle l'amour de Dieu. Et si la théologie mystique commence par regarder le mystère de la révélation du point de vue de l'amour, c'est sûr que ça doit commencer par le mystère de la croix. Et la finalité, tout de suite. C'est une question de divers parties de la théologie. La théologie biblique, on sait très bien, elle commence par l'ancienneté, par la première alliance. Ça peut pas être autrement. Elle s'achève par la seconde. Et la théologie de l'Église, c'est tout simplement le développement de l'Église dans son pèlerinage. Donc, les quatre ordres qui me sont donnés, je crois, s'imposent dès qu'on réfléchit un peu. Alors, on peut dire que si on prend l'élaboration de la théologie, j'aurai quatre ordres Et ces quatre sont différents. Et ces quatre s'enrichissent. Mais je traiterai dans la théologie, dans chacune partie de la théologie, toujours les mêmes mystères. Le mystère de Dieu dans son unité, le mystère de Dieu dans sa trinité, le mystère de la création, le mystère de l'homme et des anges, le mystère du Christ et des sacrements, mais l'ordre différent. Alors, quelle est la place de l'intelligence et de la foi ? Il est évident que, en théologie, la foi est au point de départ. Tout ce qui est directement de la foi sert de principe pour éclairer, illuminer toute la pensée théologique, de théologie scientifique comme de théologie mystique. Ça, c'est la même chose. Comme de théologie biblique, comme de théologie de l'Église. C'est toujours dans la lumière de Dieu. Autrement, c'est plus de la théologie. Il y a une contradiction dans les termes. Et l'intelligence est au service de la foi et de la parole de Dieu. Alors, c'est là où il serait très intéressant de préciser les différents aspects. De l'intelligence au service de la parole de Dieu. Au service de la parole de Dieu, dans une théologie publique, qu'est-ce que je regarde ? Le développement normal de la révélation par rapport à l'homme. Dans une théologie scientifique, qu'est-ce que je regarde ? Je regarde ce qui est le plus intelligible pour nous vers le moins intelligible. Le plus mystérieux. Et j'ai différents aspects où je reprends tout. Le mystère de Dieu, le mystère de la création, le développement de l'homme, le point de vue de la recréation. C'est l'ordre que prend Saint Thomas et ça me semble très difficile de prendre un autre ordre. Réfléchissez quand vous travaillez Saint Thomas. On vous demander si on peut mettre un autre ordre.
Pourquoi est-ce que saint Thomas, puisque vous dites qu'il commence par ce qui est le plus intelligible, pourquoi est-ce qu'il aborde la création après, avant la Sainte Trinité ?
Non, la création est après la Très Sainte Trinité.
Ah oui, c'est ça.
Vous voyez bien, dès que vous quittez saint Thomas, ça ne va plus. Non, c'est, vous voyez, au plan philosophique, ce serait après directement. Mais là, au plan théologique, je ne peux pas traiter de la création en dehors du mystère de Dieu. Hein, Maîtrine ? C'est comme le mystère des missions. On traite, dans la traité de la Très Sainte Trinité, il traite d'abord du mystère des personnes divines, puis le don. De ces personnes divines à chacun d'entre nous. Et non pas l'inverse. Oui.
Mais dans le traité de la création, saint Thomas ne fait absolument pas référence à la Sainte Trinité.
À quoi ?
À la Très Sainte Trinité.
Oui, pardon, il en fait. Regardez, attentivement.
En théologie naturelle, on peut parler de la création.
Qu'est-ce qu'il y a ?
En théologie naturelle, on peut parler de la
création. On doit parler de la création.
Oui.
On fait toujours un cours de philosophie sur la création. Je ne le fais pas tous les ans, mais normalement tous les 4 ans.
Et on a une intelligibilité aussi profonde de la création en théologie naturelle que dans la somme, non ?
Exactement comme pour l'existence de Dieu. Alors, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand j'adhère à Dieu, j'adhère au Dieu trine. Voyez ? Et dans le Dieu trine est impliquée la simplicité de Dieu que j'atteins en théologie naturelle. Quand je regarde la création, au point de vue, je regarde la création, tout de suite dans le temps. Tandis que le philosophe étudie ce qu'est la création. Vous voyez ? Donc c'est pas la même chose. L'ordre que prend saint Thomas, l'ordre que prend saint Thomas n'est pas l'ordre que prend le philosophe pour la création. La création, au point de vue philosophique, est regardée comme une relation. Quelle est la relation qui existe entre l'être premier que je découvre et moi-même? Vous voyez, en métaphysique, c'est le « je suis » de Dieu et le « je suis » de moi. Quelle est la relation qui existe entre les deux? La création est regardée comme le problème de la relation. Mais les deux sont affirmés, l'existence de Dieu et moi-même. Quelle relation existe-t-il entre moi et Dieu? Et c'est comme ça que je pose le problème de la création. Tandis qu'en théologie, je pose tout de suite le problème de la création. Et Dieu crée, il est dit que Dieu crée. Vous voyez, je pars de Dieu. Donc le problème est posé différemment. L'intelligibilité que j'ai de la création, au plan métaphysique, je la retrouve en théologie. Vous voyez? Mais je ne l'ai pas découvert de la même façon, puisque en théologie, je la découvre tout de suite. Mais les précisions que je donne sont les mêmes. Alors, nous avons déjà vu que ce n'est pas n'importe quelle intelligence qui peut être assumée par la foi. Oui, je l'ai répété ce matin à propos des catégories. Les catégories, c'est très cru, parce que c'est là, c'est l'objection qui avait été soulevée, elle est courante. Elle est courante, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Comment le théologien peut-il se servir de l'habitus et dire que la grâce est un habitus? Vous voyez, c'est la grande objection des orthodoxes. Alors, ils ne comprennent pas que l'habitus peut être regardé dans un regard de sagesse et non pas au niveau prédicament. Parce que n'est assumable par la foi que ce qui est saisi dans un regard de sagesse philosophique. Dans un regard de sagesse philosophique, je distingue intelligence et volonté dans l'homme. Je les distingue en philosophie du vivant, mais je les distingue autrement. Et je vois que mon intelligence est pure puissance, qu'elle a besoin de déterminations successives pour se perfectionner. Et c'est ces perfections qui sont comme quelque chose qui vient de l'intérieur, de la nature de l'intelligence, pour permettre à l'intelligence d'être plus elle-même. C'est ce qu'on appelle habitus. Donc, voyez, petit travail très intéressant que je vous suggère pour ceux qui sont déjà un tout petit peu avancés en philosophie. Regardez la différence du traité de l'habitus dans saint Thomas, dans la Somme, et le traité de l'exis dans Aristote, en éthique, ou dans les prédicaments. Alors là, vous verrez tout de suite le niveau d'intelligence est différent. Un autre problème qui est encore plus intéressant, regardez la manière dont saint Thomas parle de l'âme. théologien et la manière dont Aristote parle de l'âme en philosophe. Je me souviens avoir dû faire ce... À Rome, il y avait un petit congrès sur l'âme. Et puis on m'a supplié d'y aller. J'y étais. Et j'ai essayé d'exposer ce qu'est l'âme, selon saint Thomas, dans la Somme. C'est évident que je ne peux pas affirmer ça immédiatement au point de vue métaphysique. Saint Thomas dit tout de suite que l'âme subsiste en elle-même. Affirmer ça au point de vue philosophique. Vous n'avez aucune expérience de l'âme qui subsiste en elle-même. Elle subsiste dans mon corps, mon âme. Mon âme séparée, hein. C'est dans un rêve. C'est dans une nostalgie. C'est quand je suis très fatigué. Je dis, j'ai laissé mon corps sur le lit. Et puis moi, je me mets à ma table de travail. Mon âme séparée. Il ne faut pas faire cette expérience trop souvent. Parce que l'âme, après, n'a plus envie de retourner dans le corps. Alors, il y a une dichotomie qui se fait. Vous êtes... Vous n'avez plus aucun jugement d'existence. Et on peut très bien imaginer ça dans les rêves, ça peut s'imaginer. Et vous pouvez très bien dire, je suis fatigué, je vais laisser mon corps dormir, puis mon âme va se mettre au travail, mon âme séparée. Vous voyez, je n'ai aucune expérience de l'âme séparée. Donc tout ça, c'est purement imaginatif. Tandis que le théologien parle tout de suite de l'âme subsistance. Alors, je me souviens avoir dit ça, que saint Thomas parle de l'âme en théologien et pas en philosophe. Il y avait la moitié du public qui se dit, mais non, ce que saint Thomas dit sur l'âme, c'est métaphysique. Non, c'est théologique. Et c'est très important, c'est ça. Alors là, c'est un petit exercice devez faire vous-même, ou bien au séminaire. C'est un petit exercice extrêmement intéressant parce que ça nous habitue, voyez, à passer d'un registre à l'autre registre et de comprendre que les concepts, les jugements qui sont en théologie sur l'âme, sur Dieu, c'est des jugements de sagesse. C'est pas du tout le point de vue de l'induction. Ça vous s'habituer à ça. C'est... Et on peut le faire, nous. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous répétez. Alors vous êtes pour ou contre, mais vous répétez. On peut répéter tant pour. On peut répéter tant contre. Et vous n'avez pas saisi ce qu'il y avait de particulier à la somme théologique de saint Thomas. C'est une somme théologique. Saint Thomas ne dit pas une somme métaphysique. Et saint Thomas sait très bien ce que c'est que la métaphysique. Il a commenté tout Aristote. Il n'a pas considéré qu'il perdait son temps en commentant Aristote et en commentant les analytiques. Il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qu'on doit faire, nous. Jusqu'à la fin de notre vie, nous faisons de la philo. Et nous faisons de la théologie. On ne considère pas du tout que la philosophie, c'est 3 ans, et puis ça y est, après c'est fini. Pas du tout. Si vous faites ça, vous deviendrez de mauvais philosophes, de mauvais théologiens. Voyez, ce qu'il faut comprendre, alors là ça me semble très important pour le progrès de la théologie. Comment la théologie peut-elle progresser? Elle peut progresser d'une manière extérieure, selon des motifs extrinsèques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des erreurs. Ayez comme ami un hérétique. Ça vous aidera beaucoup à progresser en théologie. Un vieil hérétique, hein. vieil hérétique, un bon luthérien, très très acharné à Luther, Hegel, un bon luthérien, parce qu'on considère que Hegel est le meilleur des théologiens luthériens. Alors ayez Hegel comme ami quand vous faites le traité de la très sainte Trinité, et vous comprendrez tout de suite que Hegel devrait nous aider à faire un traité de théologie sans répéter entièrement Saint Thomas. Et ça, ce serait très intéressant à faire. Et un des sœurs Père Lazare, de la Mère de Dieu, de le faire, mais sa santé ne le permet pas encore, mais j'espère bien qu'un jour il le fera. Parce que ça, ce serait très intéressant. Alors, la théologie progresse de l'intérieur par la philosophie et la mystique. La foi. Soyez de plus en plus croyants. Soyez de plus en plus philosophes. Vous progresserez dans votre théologie. C'est la seule manière de progresser. Là encore, c'est une des erreurs de la scolastique d'avoir cru que la théologie progressait dans sa nature propre. La théologie est un mixte. Et le mixte ne progresse pas par lui-même. Il progresse en regardant ce qui est fondamental en lui. Il n'y a qu'à regarder dans l'ordre de la nature biologique. Le mulet. Il est un fécond. Et c'est toujours les deux éléments qui permettent la progression. Eh bien, c'est la même chose ici. Le théologien qui est professeur de théologie ne progresse pas beaucoup. Ou des petites précisions, des virgules, des points d'interrogation. L'apôtre progresse. Parce qu'il est en face d'hérétiques, il est en face de gens qui cherchent, il est en face de gens qui désirent aller plus loin. Et l'apôtre, s'il est contemplatif, et s'il est philosophe, progresse merveilleusement. Donc pour progresser en théologie, c'est-à-dire avoir une théologie vivante, une théologie qui ne progresse plus, n'est plus une théologie vivante. J'ai suivi le cours de théologie. J'ai fait ma théologie. C'est cette expression odieuse. J'ai fait ma théologie. J'ai vu tous mes traités. Ah oui, oui, oui. Ça vous avance beaucoup. Et on a l'impression que... Ben oui, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on fera après ? On lira des petits bulletins paroissiaux, voilà. On ne fera plus la vraie théologie. Où on se contentera quelquefois, c'est déjà un supérieur, de regarder les encycliques. Les encycliques, on doit les lire. Mais ce n'est pas toujours les encycliques qui sont la source première du progrès de la théologie. Je regrette de dire ça, mais c'est vrai. Les encycliques sont données pour l'enseignement commun de l'Église. C'est pour ça qu'on doit le savoir. La théologie progresse au-delà des encycliques. Elle progresse par elle-même en revenant tout le temps à l'Écriture, à la source. En revenant tout le temps à l'évangile de Jean, pour nous. En revenant tout le temps à l'Apocalypse, à la première théologie progresse si on reste philosophe. Éthique, métaphysique, philosophie du vivant, avant tout. Philosophie de l'art. Alors, si on reste philosophe et qu'on veut progresser en philosophie, à ce moment-là, la théologie peut progresser et rester vivante. Qu'est-ce qui est vivant en nous? C'est la philosophie et la foi. C'est pas la théologie directement. Puisque c'est un mixte. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Pas tellement pour maintenant, parce que vous devez faire votre théologie, votre bagage de théologie, vous devez le faire. Bon. Vous devez voir les traités. Mais pour après, vous continuerez à faire de la philosophie si la philosophie pour vous est vivante. Ceci aussi bien pour les sœurs que pour les frères. Nos sœurs apostoliques ne continueront à faire de la théologie que si elles ont compris la théologie est vivante. Autrement, ce sera terminé, pas grave. Puis quand il y aura une question trop difficile, heureusement, on a des frères. Alors on écrira en frère un tel, je viens de voir, dites-moi un tout petit peu. Non. Il faudrait que chaque sœur apostolique, dans la mesure où elle le peut, hein, ça c'est toujours dans la mesure où on le peut, la théologie soit pour elle quelque chose de vivant. Or la théologie est vivante par la foi et par la philosophie. La philosophie est quelque chose de vivant et la foi est quelque chose de vivant. Alors ça, c'est capital, ça. Parce qu'il s'agit là, vous voyez, de comprendre ce que c'est que l'esprit de la théologie. Et avoir une théologie vivante. Mais, la théologie de la libération, par exemple. Hein. Vous avez bien remarqué que le Saint-Père ne la condamne pas, il veut la mettre à sa place. Et ça, c'est très juste. Alors, la question extrêmement importante et très capitale, c'est les sources de la théologie. Vous voyez, ça se touche. Ça se touche. Parce que, pensez à ce que dit Peggy. Hein. Pour progresser en théologie, on va aux sources. Une conclusion n'est jamais féconde. Une définition n'est jamais féconde. C'est un terme. On conclut. Ah oui, un terme. On n'a plus qu'à s'asseoir après. Tandis qu'au contraire, si je vais aux sources, or les deux sources extrêmes, c'est la réalité humaine et la révélation divine. Parce que je peux dire ceci, chaque fois que Dieu se révèle, il révèle à l'homme ce qu'il est. Et chaque fois que Dieu révèle à l'homme ce qu'il est, Dieu se révèle. J'avais pris ce petit slogan que je crois juste. Hein? Parce que je ne pouvais pas mettre à Fribourg quand je faisais cours de l'écriture. Pas permis. Les exégètes auraient vu rouge. Maintenant, beaucoup moins. Mais de ce temps-là, c'était comme ça. Si vous êtes théologien, vous n'êtes pas exégète. Le théologien n'avait pas le droit de parler de la parole de Dieu. Seul l'exégète. Alors, si on faisait ça, vous comprenez, on avait tout à fait le droit de parler n'importe quoi de la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu se révèle, il révèle à l'homme ce qu'il est. Chaque fois que Dieu révèle à l'homme ce qu'il est, il se manifeste, il se révèle. Parce que dans l'écriture, vous voyez, anthropologie et théologie, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un. dit que en philosophie, anthropologie et théologie, ça fait deux. Et ça, il faut comprendre ça. Donc les deux sources les plus fondamentales, c'est la connaissance de Dieu par la révélation et la connaissance de l'homme par la philosophie. La connaissance de l'homme par la révélation et la connaissance de Dieu par la philosophie. Oui, je prends les deux, ça en fait quatre. Il y a quatre sources. Ça, c'est les sources fondamentales. On n'arrivera jamais à connaître assez l'écriture. On n'arrivera jamais à connaître suffisamment ce que c'est que Dieu et l'homme par mes connaissances d'ordre philosophique et surnaturel. C'est pour ça que la source première, c'est le mystère de la parole de Dieu. Avec le mystère de la parole de Dieu, il y a la tradition. Avec la tradition, il y a l'écriture et le magistère. Donc je précise, c'est important. Donc, il y a la parole de Dieu, puisque la foi adhère à la parole de Dieu. Il y a la tradition qui est plus ancienne que la parole de Dieu, qui enveloppe la parole de Dieu. À partir de la tradition, il y a l'écriture et il y a le magistère. Au point de vue philosophique, il y a toutes les parties de la philosophie. La critique étant très importante pour la théologie. Puisque c'est par là que je peux me servir de certains concepts. Et évidemment, la prière et la contemplation et la vie apostolique. Oui. Alors, si vous faites le petit tableau pour avoir ordonné ces différentes sources, c'est très facile. La prière et la contemplation, c'est premier. L'apostolat, en second. À l'intérieur de la prière et de la contemplation et de la vie apostolique, le mystère de la parole de Dieu et la philosophie. Donc vous voyez, c'est ça qui est merveilleux en théologie, c'est que c'est toute notre vie chrétienne qui est engagée dans la théologie. La théologie n'est pas seulement, ce n'est pas une étude particulière. Ce n'est pas une spécialité, je suis spécialiste de la théologie, mais non. On n'est pas spécialiste de la théologie, on vit sa vie chrétienne. Et la vie chrétienne réclame une réflexion théologique à des niveaux différents, à des niveaux très simples de la catéchèse, de la prédication, à des niveaux beaucoup plus profonds de l'enseignement auprès de grands séminaristes. Cette question, je crois vous avoir donné l'ordre donc, entre ces diverses sources. Comment comprendre les expression du concile, l'écriture âme de la théologie. Personnellement, je dirais, mais c'est pas du tout une critique du concile, hein, comprenez bien. J'ai le droit d'aller plus loin que le concile. Non seulement j'ai le droit, mais j'ai le devoir. En tant que théologien, je ne dois pas répéter le concile. Je dois le faire comprendre. Et pour le faire comprendre, il faut montrer ses sources et sa finalité. Autrement, je formaliserai le concile et je ferai un cours sur le concile où personne ne comprendra rien du tout. Alors, je dirais que c'est la parole de Dieu qui est l'âme de la théologie vivante. Et que le corps de la théologie vivante sont mes concepts philosophiques. Alors, il peut y avoir des cancers. Il peut y avoir des amputations. Alors, la théologie s'en sortira. La théologie est une science vivante. Toute science humaine est vivante.
Session d'introduction à la théologie par le père Philippe à Rimont, le 5 octobre 1992, quatrième cours. Ça revient au même. Mais essence
tout de suite, c'est essence et existence. Vous voyez ? Alors ça va plus du tout. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction entre essence et existence. Alors on pourrait dire parler de l'être de Dieu en lui-même. Mais il faut trouver une expression. C'est pas assez commode. Bon, c'est Dieu, c'est la très sainte Trinité. Après, c'est tout de suite la création. Pourquoi ? Parce que l'intelligibilité de la création est une intelligibilité d'un acte qui n'est plus nécessaire, qui est libre. La liberté entre en Dieu par l'acte créateur. Avant l'acte créateur, il n'y a que nécessité en Dieu. L'acte créateur est un acte libre. Dieu l'a posé librement. Et cet acte, il est en Dieu.
Mais comme la distinction des personnes n'intervient pas dans l'œuvre de la création, la création est l'œuvre de...
Attention. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez, c'est que dans une intelligibilité purement philosophique, je suis d'accord que la création, que la Trinité n'intervient pas. Mais dans une intelligibilité d'ordre de la foi, le mystère de Dieu ne peut pas se séparer de la très sainte Trinité. De sorte que tout de suite, c'est la très sainte Trinité, c'est Dieu dans son unité, et c'est Dieu trine. Vous comprenez, je ne pourrais pas me poser la question de savoir si la très sainte Trinité intervient ou n'intervient pas, si je n'en parle pas. Donc l'aspect négatif est intéressant. Après avoir parlé du Dieu 1 et du Dieu trine, il est très intéressant de montrer que si les processions qui sont une activité propre en Dieu, l'émanation propre en Dieu, à partir des personnes, lorsqu'il s'agit de la très sainte Trinité, cette émanation n'est pas à partir des personnes, mais à partir de la nature de Dieu. Pour pouvoir dire ça, il faut avoir montré les deux choses. Oui, c'est un petit peu analogiquement, je ne parle pas de l'incarnation avant d'avoir parlé de Dieu et de l'homme. Oui, c'est dans ce sens-là qu'au point de vue d'un ordre d'intelligibilité, il faut avoir vu la très sainte Trinité pour pouvoir parler chrétiennement de la création. Et montrer que la création est l'œuvre du Dieu 1 et non pas du Dieu trine. Qu'est-ce que je répondrais, moi? Vous voyez? Alors là, je ne sais pas si vous avez une opposition, mais j'aimerais la savoir. Si elle existe, si elle est encore dans le néant, il faut attendre que ça monte à la surface. Dans le contrat gentilès, c'est tout à fait différent, puisqu'il veut au contraire montrer tout ce que l'intelligence humaine peut dire. Avant. Vous voyez ? Donc, c'est un ordre de philosophie. Tandis que la somme, c'est vraiment la théologie. Et c'est un ordre de théologien. De théologie acquise. A-t-il d'autres questions ? Rien, on avance. Troisième position, ou deuxième, ça dépend comment vous divisez. Hein. Ça n'a pas d'importance. Des paragraphes successifs. Hein. Mettez des paragraphes successifs. Alors là, c'est tout à fait subjectif. La nécessité d'un maître en théologie. Quelle est la place de Thomas d'Aquin? Quelle est la place des autres théologiens? Père de l'Église, théologiens médiévaux, bonne aventure. question très vaste. L'état de la théologie aujourd'hui. Et alors, n'existe d'un maître. Vous savez la distinction que prend Töpfer. Faut jamais l'oublier. Le maître vivant et les maîtres morts. Et Töpfer a quelques petites considérations très intéressantes pour montrer la différence entre le maître vivant et le maître mort. Le maître mort a cet immense avantage que le temps en a laissé tomber pas mal dans le fossé, qu'on oublie complètement, et qui sont uniquement objets de thèses scientifiques. Heureusement qu'il y en a beaucoup d'oubliés pour qu'il y ait beaucoup de thèses à faire. Donc vous devez remercier les pauvres oubliés pour permettre des thèses à faire. C'est un illustre inconnu. L'immense avantage, c'est que personne n'a parlé de lui. Donc vous n'avez pas de littérature et vous êtes le premier à découvrir cette perle inconnue. L'inconvénient, c'est que vous pouvez complètement vous tromper. Mais pour quelqu'un qui connaît bien le Moyen-Âge, je dirais, c'est pas du tout les préoccupations que vous avez projetées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien distinguer les deux. Nous avons besoin d'un maître en théologie, parce que, en théologie, l'autorité joue. Et que si on prend un saint, comme la théologie subalternée à la connaissance des saints, vous comprenez que prendre un saint, c'est quand même quelque chose de très grand. Là, il s'agit des maîtres morts. Et c'est en ce sens-là que là, nous choisissons Thomas d'Aquin. Et nous sommes très nets, nous ne cachons pas nos couleurs. Thomas d'Aquin, et j'ai déjà dit, et je le redis ici, c'est extrinsèque à la théologie. Quelqu'un qui voudrait entrer dans la congrégation Saint-Jean en disant « Saint Thomas est un imbécile », on n'aurait qu'à lui dire « Merci, vous pouvez planter vos choux autre part ». Dans un terrain plus clément, demande à tous d'aimer saint Thomas. Je ne dis pas nécessairement de le comprendre, mais de l'aimer. Pourquoi l'aimer? Pourquoi l'aimer? Parce que l'Église nous le demande. Au début, c'est uniquement à cause de ça. Au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très grand dans ce choix de l'Église. Elle a choisi celui qui, au point de vue théologie scientifique, est le premier, non seulement génétiquement, mais au point de vue proprement, perfection. N'oubliez jamais, et servez cette parole à bon escient, cette parole de Karl Barth, que tout bon catholique respecte. Karl Barth était un théologien calviniste, luthérien, excellent, merveilleux, une exaltation de la foi très très grande. L'exaltation de la foi est telle que pour lui on se demande s'il y a encore de la théologie, et cependant il a écrit 15 gros bouquins. Il a refait toute une théologie. Eh bien, Karl Barth dit ceci, Luther est sûrement le meilleur théologien luthérien. Je veux dire, Hegel est nécessairement le meilleur théologien luthérien. C'est évident pour lui. C'est celui qui a été le plus loin dans sa contemplation, dans sa spéculation sur la très sainte Trinité. Mais il ajoute tout de suite, peut-être que Thomas d'Aquin a été plus loin. Il n'y a pas beaucoup de prêtres. prêtre catholique, le théologien catholique qui dirait ça. Alors, c'est intéressant à bien placer. Quelqu'un qui critique saint Thomas et qui dit il est plus de mise. Dit, mais vous connaissez Karl Barth? Oh, je comprends, c'est évident. C'est celui qui nous devance. Quand on est dans une recherche difficile, on aime bien d'avoir quelqu'un qui passe devant vous. Surtout quand ce quelqu'un est beaucoup plus grand et marche beaucoup plus vite. Parce que si ce quelqu'un marche moins vite et était plus petit, on serait bien obligé de le dépasser. Ce qui ne serait pas très poli. Le maître, c'est celui qui nous devance, c'est celui qui nous aide, c'est celui qui nous soutient, c'est celui qui nous encourage, c'est celui qui nous dit aussi d'avance les vraies, les grandes solutions. On n'a plus qu'à les repenser. De sorte que, en théologie, où nous sommes dans la foi, nous appuyons sur la doctrine des saints. Autant que possible, prenons comme maître un saint, comme théologien. Pourquoi Thomas d'Aquin? Parce que de fait, Thomas d'Aquin en théologie scientifique. Il l'a inventé, c'est lui qui l'a inventé. Il nous en a montré toute l'importance, nous y reviendrons là-dessus. Et puis surtout Thomas d'Aquin est le théologien de l'Église. L'Église n'hésite pas de dire que c'est beaucoup plus sûr de s'appuyer sur Thomas d'Aquin que sur un autre. Donc elle le considère comme le théologien par excellence de l'Église. Et Vatican II a encore dit la même chose. Donc le nombre de fois que les papes l'ont répété, je crois, nous montre que ce n'est pas un hasard. C'est une volonté expresse. Et c'est pour ça que nous prenons Thomas d'Aquin. Parce que l'Église, dans les temps de difficulté et de lutte, revient à Thomas d'Aquin pour donner des bases solides. Il donne des bases solides, Thomas d'Aquin. Après, il s'agit de poursuivre, si on le peut. Et je crois que ça, c'est très important pour nous, de pouvoir s'atteler tous ensemble au même auteur, au même maître, parce qu'on s'encourage. Vous voyez, s'il y en avait un qui prenait Don Scott, Occam, Thomas d'Aquin, on ferait des joutes intellectuelles très intéressantes, j'en doute pas, mais on ne se formerait pas. Ce qui est incomparable de Thomas d'Aquin, c'est qu'il nous instruit, c'est qu'il nous forme. Donc, on prend Thomas d'Aquin. Si vous avez des difficultés dans ce domaine-là, vous me les écrirez. J'ai le droit de savoir. Puisque je vous ai dit que si quelqu'un était en opposition vis-à-vis de Thomas d'Aquin, on lui dirait votre place n'est pas ici. Autre chose est dire je ne le connais pas, c'est normal. Je ne le connais pas, je ne sais pas exactement ce que ça fait en site, c'est magnifique, mais c'est des petites citations. Qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce qu'il y a avant, je ne sais pas. C'est vrai, du reste, c'est très vrai, des petites citations. Donc, on prend Thomas d'Aquin, non pas pour imiter les autres, pour avancer plus vite. Avancer plus vite dans la recherche de la théologie. universel de tous les théologiens. Alors, je trouve ça très beau. C'est la catholicité. Donc, on prend Thomas d'Aquin et on prend comme maître vivant ce que le Seigneur nous donne à enseigner. Mais on choisira, surtout dans les questions plus difficiles, tel ou tel, sa libre choix. Comme maître vivant, si ce maître vivant était en contradiction avec Thomas d'Aquin, on le rayerait de la liste. Ce serait vite fait. Petite pilule qui change le papier. Tout de suite, disparaît. Donc il faut que ce maître vivant soit en connaturalité avec Thomas d'Aquin. Qu'il connaisse Thomas d'Aquin. Qu'il l'aime. Qu'il en vive. Maître vivant, maître mort, il ne faut pas en avoir trop. Moi, je crois qu'on choisit un maître et on ne choisit pas 36 maîtres. Par fidélité, tu restes à la recherche de la vérité pour ne pas perdre trop de temps. Et pour Thomas d'Aquin, il n'y a pas de danger d'exclusivisme, de fermeture, étant donné la profondeur à laquelle il atteint ça. Il atteint le mystère de Dieu et qu'il veut nous communiquer l'intensité, la ferveur qu'il veut pour nous communiquer. Alors, il y a un petit problème extrêmement intéressant, c'est de voir comment il faut choisir, il faut utiliser Thomas d'Aquin. 36 manières d'utiliser. On peut l'utiliser comme un maître qui a été très grand. À ce moment-là, on fait de l'archéologie. Puis il y a un petit bout du doigt qu'on a retrouvé. Et ça légitime toute la recherche archéologique. On étudie Thomas d'Aquin pour acquérir auprès de lui l'habitus théologique. Pas une méthode, l'habitus théologique. L'habitus théologique, c'est la méthode qu'on a avalée, intellectuellement parlant. C'est la méthode qui structure notre intelligence. Une intelligence qui fréquente saint Thomas a quelque chose de particulier. Elle est bien faite. Eugénos, elle est bien née. Oui, et saint Thomas nous forme, c'est-à-dire nous ne le considérons pas du tout comme périmé. Parce que beaucoup aiment Thomas d'Aquin, mais il est périmé. Comme écrivait Urs Balthasar dans ses premiers écrits, quand il était à Fourvière. Après, il a pensé très différemment. Et Urs Balthasar, j'ai lu un petit article de ce temps-là, qui était paru dans la revue des Pères Jésuites. Urs Balthasar dit, je ne comprends pas qu'on peut faire du néo-thomisme. On ne fait pas du néo-gothique, du néo-roman. C'est affreux. Il a raison. Alors, je ne comprends pas comment on peut faire du néo-thomisme. Thomas d'Aquin. Alors, vous voyez, la seule réponse est la recherche de la vérité. La vérité de Thomas d'Aquin est la vérité pour nous, au plan théologique. avant les autres pour confirmer ou montrer la déviation qui a été prise. C'est celui qui voit avant et c'est celui qui entraîne le disciple jusqu'au bout pour qu'il puisse réaliser un travail qui lui soit propre. Ce travail sera avant tout le travail du maître qui l'aidera, mais c'est quand même lui qui le fait dans un contact plus immédiat avec la réalité. Et ceci, c'est bon. On doit aimer pouvoir travailler très librement dans un climat de recherche de vérité. C'est ce que saint Thomas nous donne. Donc considère saint Thomas vraiment comme un maître. Saint Thomas, comme il est un maître très élevé, n'exclut pas les autres. Mais les autres sont vus en référence à Thomas d'Aquin. Autrement, on fait un éclectisme. Thomas d'Aquin nous apprend à utiliser les pères de l'Église comme lui-même les a utilisés. Les pères de l'Église forment l'humus qui enveloppe la somme théologique. C'est tout le climat particulier dans lequel la somme théologique s'est réalisée. Alors, à ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, je dirais, de pouvoir aller jusqu'au bout de cette recherche pour voir comment saint Thomas, loin de nous détourner des autres, éveille notre curiosité et nous montre que la parole de Dieu implique nécessairement